Bonjour à toutes et à tous. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés pour un épisode du podcast et je suis très heureuse de pouvoir enfin revenir. J'ai été très occupée ces derniers mois, j'en suis absolument désolée. J'espère dès à présent pouvoir reprendre un rythme un petit peu plus mensuel pour ce podcast que j'aime énormément faire, qui m'intéresse énormément et qui me permet d'explorer la littérature d'une autre façon que celle qui est la mienne sur Instagram ou sur YouTube. Je reviens ce mois-ci avec un sujet quelque peu particulier et délicat. Je vais vous parler d'inceste en littérature et on s'intéressera à l'inceste biologique et réel et non pas à l'inceste symbolique dans ce podcast. Je vous encourage donc à ne pas écouter ce podcast si c'est un sujet qui, pour X raisons, vous blesse ou vous met mal à l'aise. Je précise toutefois que dans ce podcast, je m'intéresserai également uniquement aux incestes consentis. C'est-à-dire l'inceste désiré par les personnages concernés. Si le sujet vous est quand même insupportable, je vous encourage encore une fois à ne pas poursuivre l'écoute de cet épisode. Alors l'inceste est un thème littéraire qui est présent depuis l'Antiquité. On peut penser par exemple aux Métamorphoses d'Ovide avec Myrrhe. Et c'est un thème qui a traversé les époques, même si on peut remarquer qu'il est présent de manière plus forte à certaines périodes, par exemple à la fin du XIXe siècle. Et malgré son omniprésence temporelle dans les productions littéraires, voire artistiques, si l'on connaît surtout l'inceste, c'est par le biais de la psychanalyse et des faits divers. Alors quelle est sa place exactement dans la littérature? En quoi est-ce intéressant de l'observer? C'est ce que l'on va essayer de déterminer ensemble dans ce podcast. Et on va essayer d'offrir ainsi une porte d'entrée dans cette thématique qui est taboue et complexe et qui est extrêmement bien documentée toutefois dans les analyses littéraires et dans les thèses littéraires. On s'intéressera à plusieurs œuvres, sur plusieurs époques, dans plusieurs langues, et issues de mouvements différents, ce qui permettra non seulement de rendre compte de l'omniprésence, comme je l'ai dit, de ce thème dans la littérature, mais également de s'intéresser aux différences de traitement de l'inceste selon ces différents critères. Ce qui est intéressant et ce qui m'a frappé tout d'abord, c'est que l'inceste est rarement présenté seul. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il s'accompagne très souvent d'autres perversions, comme si l'inceste ne suffisait pas ou comme si l'inceste ne pouvait être le fait de personnes équilibrées en dehors de cet élément-ci. Et il est très souvent présenté également en tant qu'incapacité, en fait, à former des relations au monde, aux personnes extérieures. C'est-à-dire que l'inceste exprime plus ou moins la réaction d'une famille ou d'un cercle familial, que ce soit entre frères et sœurs, entre parents et enfants ou des liens de parenté plus éloignés, par rapport à la société, par rapport aux étrangers, une forme de rejet. En effet, l'autre qui est trop semblable, c'est celui du frère ou de la sœur, et c'est cet inceste-là qui est extrêmement présent en littérature. On appelle d'ailleurs cela l'inceste adelphique, et c'est une relation qui est présentée comme idyllique, ou presque pendant très longtemps. Et c'est aussi une relation qui est une relation d'origine dans plusieurs récits cosmogoniques ou des mythes d'origine. On peut penser par exemple à la formule de Sade, qui est l'inceste devrait être la loi de tout gouvernement dont la fraternité fait la base. Alors bien sûr, Sade est à prendre avec des pincettes, hein, on connaît son goût pour la perversion et la provocation. Mais on peut penser aussi à Percy Shelley, qui n'a pas du tout les mêmes ambitions ni les mêmes inclinaisons que Sade, on va dire, et qui a dit que l'inceste était a very poetical circumstance, donc une circonstance très poétique dans une de ses lettres. C'est quand même assez intéressant de voir la différence de traitement de cet inceste adelphique, hein, je précise bien adelphique ici, entre leur époque, ou leurs époques plutôt, et la nôtre. Et ça se vérifie aussi dans l'isolement que connaissent souvent ces couples, qui sont coupés spatialement du monde, le plus souvent de leur propre fait, de leur propre volonté. L'inceste apparaît ainsi parfois également comme l'ultime remise en cause de la morale et des institutions de nos sociétés, et un certain retour en fait à une société archaïque. Alors c'est par exemple le cas dans Ada ou l'ardeur de Nabokov, qui est un roman publié en 1969 et porteur de la marque de fabrique de Nabokov, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire un style sublime au service d'une écriture transgressive. Alors l'histoire d'Ada et de Van, qui sont les deux protagonistes du roman, c'est une histoire d'amour sans concession et qui ne recule devant absolument rien, tout comme l'écriture de Nabokov, ce qui peut donc en faire un roman assez dérangeant pour certains. Le titre nous met déjà en garde, L'ardeur est belle sans phare. L'inceste est doublement présent en plus dans ce magnifique récit, mais je ne vais pas vous en dire plus, je ne vais pas en divulguer plus, car ce serait gâcher la lecture en fait pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu et qui auraient encore à le découvrir. C'est un roman extrêmement intéressant, extrêmement complexe, extrêmement exigeant, où Nabokov se joue du lecteur. Il aime à repousser les limites encore plus, à mon sens, par exemple, que dans Lolita. Et ce qui me paraît être d'autant plus intéressant, c'est peut-être ici de noter la forme d'amour absolu et assumé qu'il met en scène, cette relation ultra sensuelle et passionnée et qui s'étend sur toute une vie. Ce qui fait qu'en fait, l'amour passe au premier rang et relègue l'inceste au second plan. C'est un tabou, certes, mais on en vient presque à l'oublier. Encore une fois, j'ai envie de dire, la marque de fabrique de Nabokov. Alors, j'ai lu Ada Oularder, mais en anglais. Donc, je vais vous donner un extrait en anglais en espérant que les anglophones pourront le comprendre, et puis je reviendrai brièvement dessus en français pour faciliter la compréhension. Her bare foot slipped, and the two panting youngsters tangled ignominiously among the branches in a shower of drips and leaves, clutching at each other, and the next moment, as they regained a semblance of balance, his expressionless face and cropped head were between her legs, and the last fruit fell with a thud, the dropped dot of an inverted exclamation point. She was wearing his wristwatch and a cotton frock. Remember? Yes, of course I remember. You kissed me here, on the inside, and you started to strangle me with those devilish knees of yours. I was seeking some kind of support. That might have been true, but according to a later, considerably later version, they were still in the tree and still glowing when Van removed a silk thread of lava web from his lips and remarked that such negligence of attire was a form of hysteria. Well, answered Ada, straddling her favorite limb, as we all know by now, Mademoiselle La Riviere de Diamant has nothing against the hysterical little girls not wearing pantalettes during l'ardeur de la canicule. Alors cet extrait qui est à mon sens juste magnifique et absolument dérangeant toutefois, présente le premier contact. Et ils sont donc dans un arbre, ils chutent, donc bien évidemment le renvoi, il me semble, au péché originel, à la chute de l'homme, aux fruits, etc., est assez clair. Et lorsque, malencontreusement, dans la chute, en fait, Van se retrouve à avoir la tête entre les jambes d'Ada et il l'embrasse à l'intérieur, selon les souvenirs d'Ada, qui, elle, l'étrangle avec ses jambes et ses genoux. Et voilà, c'est clairement transgressif, c'est clairement une forme de provocation, bien évidemment. Surtout que Ada et Van sont très très jeunes et qu'en fait dans ce roman, la sensualité et la sexualité sont débridées au maximum. Et en même temps, il y a une forme de poésie, il y a une forme de... le végétal est au service, le sensuel et le végétal sont au service de la sensualité dans cette œuvre. Ce qui fait que c'est toujours teinté de poésie, d'une forme d'onirisme et presque de féerie qui renverse la transgression. Pour moi, Ada Oularder, c'est un roman vraiment passionnant. Qui est vraiment une écriture de l'union absolue envers et contre tout. C'est d'ailleurs un angle d'approche qui me paraît mériter une vidéo à part entière et j'aimerais beaucoup venir vous parler de cela dans une vidéo prochainement. Donc je ne peux que vous recommander cette lecture tout en gardant à l'esprit que l'auteur, comme à son habitude, ne nous épargne rien, donc soyez prêts à être quand même un petit peu choqués. Il me semble qu'il y a une vraie question qui se pose toutefois, c'est que vaut l'inceste en littérature et quelle est la valeur de ces relations incestueuses dans les récits? Est-ce que ce n'est qu'un désir de transgression si fort qu'on s'en résout au plus grand des tabous ou est-ce que ça conserve une spécificité qui justifie sa présence si forte dans les récits littéraires? Est-ce qu'on veut juste dépasser la morale pour atteindre l'intensité ou est-ce que l'inceste présente réellement une caractéristique spirituelle, mystique, mythique, mythologique presque, qui en fait un leitmotiv et ce, dans plusieurs cultures, dans plusieurs littératures. Je pense qu'il est aussi intéressant de noter que la transgression est présentée sous des formes très différentes. C'est-à-dire qu'elle peut être l'objet principal de l'écriture et cristalliser ainsi des désirs, les élans des personnages, ou bien elle peut être presque absente, ou en tout cas implicite et presque oubliée par des personnages qui présentent l'inceste comme normal, anodin. Alors normal, c'est peut-être pas le terme exact, car si le sujet vaut la peine d'être relaté, c'est bien qu'il présente un intérêt particulier et les textes le montrent en fait d'une façon ou d'une autre. Que ce soit par les conséquences de l'inceste ou par l'échec quasi permanent de ces relations, ou bien encore par la désagrégation des personnages qui, s'ils sont incestueux, sont majoritairement présentés comme en souffrance, perturbés ou en train de se détruire tout simplement. Mais on peut remarquer quand même que parfois l'inceste est mentionné de façon très légère, elle n'occupe pas la majorité des réflexions, des écrits, et que même les personnages semblent avoir des réactions face à ça qui pourraient paraître un petit peu trop irréalistes. Et s'il est intéressant de noter cela, à mon avis, c'est en raison du contraste qu'il met en lumière. C'est-à-dire que si l'inceste est considéré comme un tabou universel, les chiffres sont pourtant impressionnants. Et la littérature s'empare de ce sujet comme aucune autre forme artistique. Elle opte donc pour deux lectures, que l'on pourrait percevoir comme opposées, le tabou comme un artifice dépassable et le tabou comme force inévitable. C'est le cas dans NP de Banana Yoshimoto, qui est un court roman où l'inceste, s'il est en effet décrit comme anormal, ne provoque pas de réels questionnements sur la morale, l'éthique ou même la sanité des sentiments de la part des protagonistes. Les deux incestueux et une personne tierce, spectatrice en fait de la relation incestueuse. On remarque donc une réaction qui, sous un aspect faussement réaliste, est en réalité bien loin de ce que l'on pourrait observer hors de la fiction pour le plus grand nombre. C'est-à-dire que les personnages concernés sont bien évidemment tous en souffrance, mais l'inceste est accepté, ne semble pas être la cause de la souffrance et n'est pas forcément lié aux difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie. Ils sont plutôt dans une quête identitaire qui ne se résout pas, mais on a vu que très souvent en littérature, en fait, l'inceste, en tout cas adelphique, est réellement lié à la question de l'identité. Ils sont également incapables de former de véritables relations et d'être autonomes, d'où peut-être ce recours à l'inceste qui est l'unique possibilité. On ne peut se tourner que vers l'autre moi ou l'autre je qui est le frère ou la sœur. Et alors une autrice qui vient immédiatement à l'esprit en parlant d'inceste est bien sûr Anaïs Nin, avec l'épisode plus que troublant de la relation avec son père. Étant donné que là, on rentre dans une dimension plutôt autobiographique. C'est un inceste qui est consenti, qui est même désiré de sa part. C'est un épisode qui est présent dans ses journaux que je n'ai pas encore lu. Et je vous parlerai donc d'un court ouvrage que j'ai lu, celui-ci, qui s'appelle The House of Incest, donc la maison de l'inceste, est paru en 1936. Chez Anaïs Nin, l'inceste, c'est un petit peu complexe. C'est un spectacle, en tout cas, qui est situé en fin. D'œuvre pour The House of Incest, qui est plutôt un long poème, en tout cas on peut le considérer ainsi, je pense, et qui semble ainsi marquer en fait l'apogée de l'écriture et encore une fois l'apogée d'une quête identitaire, surtout en sachant que The House of Incest aurait apparemment été écrit suite à un rêve qu'elle aurait fait et aux encouragements de son psychanalyste ou de son thérapeute. On a tout un premier pan du texte qui se concentre sur la dualité et l'effet de miroir entre des personnages féminins et bisexuels. Et puis, y a la fin où effectivement l'inceste est présent. Alors chez Anaïs Nin, l'inceste ne pose aucune question morale, même si le choix des personnages, Lilith et Lot, n'est bien sûr pas à ignorer et n'est pas dû au hasard non plus. Toutefois, leur lecture est double. Alors ils sont effectivement du côté du mal, si on fait référence à la Bible ou en tout cas aux Écritures saintes. On retrouve d'ailleurs là Nabokov quand même un petit peu avec la mention biblique. Mais ils sont également du côté de la connaissance et de la liberté. Et encore une fois, la chute de l'arbre, c'est le péché originel, mais c'est l'accès à la liberté, à la connaissance. Donc Nin, elle contourne toutefois le tabou en le présentant comme une forme de délire, d'hallucination, mettant en scène des personnages mythiques. Alors faut pas croire non plus quand même que ce serait une forme de peur, étant donné qu'on sait comment dire, toute l'honnêteté, enfin l'honnêteté. En tout cas, toute la factualité et toute l'impression de véracité qui est présente dans ses journaux. Alors, justement, dans House of Incest, on est à la frontière entre le témoignage déguisé et l'écriture symbolique, parce que si l'épisode incestueux avec son père n'était pas connu et présenté comme avéré dans ses journaux, on pourrait tout à fait s'imaginer qu'il n'y a là que du symbolique. Sauf que, étant donné qu'on connaît l'histoire d'Anaïs Nin, on peut se dire qu'il y a là une forme de témoignage déguisé, une forme de parole de l'inconscient. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'inclure cette œuvre dans ce podcast, même si effectivement là c'est plutôt un inceste un petit peu symbolique et pas forcément aussi factuel et évident que dans les autres œuvres. Toutefois, il y a quand même À mon sens, une petite citation par exemple qui fait totalement référence à l'inceste père-fille. Hein. Stumbling from room to room, I came into the room of paintings, and there sat Lot, with his hands upon his daughter's breast, while the city burned behind them. Alors là, j'aimerais vous lire un extrait de Barbey d'Aurevilly dans une page d'histoire où il s'intéresse effectivement à l'inceste. Et j'ai trouvé que c'était une citation assez. Ce qui fait de l'inceste un crime si rare, c'est l'accoutumance. Dans le château solitaire où ils furent élevés, Julien et Marguerite de Ravalais avaient dû, à ce qu'il semblait, assez s'accoutumer à eux-mêmes pour que leur dangereuse beauté ne fût pas mortelle à leur âme. Mais ils étaient la dernière goutte du sang des Ravalais et leur fatal amour fut peut-être leur inaliénable héritage. Qui a jamais su l'origine de cet amour funeste, probablement déjà grand quand on s'aperçut qu'il existait? À quel moment de leur enfance ou de leur jeunesse trouvèrent-ils dans le fond de leur cœur la cantharide de l'inceste, souterrainement endormie, et lequel des deux apprit à l'autre qu'elle y était? Combien de temps avant, les murmures grossissants des soupçons et l'éclat détonnant du scandale dura leur haletant bonheur, coupé de remords et de honte, mais qui devint bientôt assez puissant pour les étouffer? Séparés en effet, le fils exilé au loin et la fille mariée, de par l'impérieuse autorité paternelle, le fils revint tout à coup au château comme la foudre et enleva sa sœur comme un tourbillon. Où allèrent-ils engloutir leur bonheur et leur crime, ces deux êtres qui trouvaient le paradis terrestre dans un sentiment infernal? Donc encore une fois, il y a l'idée de paradis, de bonheur absolu, de l'autre dans lequel on se reconnaît. Il y a l'idée de transgression avec la parole du père ici qui n'est pas respectée. Il y a le refus de l'autre. Hein. Le mari ne fait pas le figure dans un de ses romans. Alors, un des autres ouvrages que j'avais envie de présenter dans ce podcast, même s'il est un petit peu différent, parce qu'il ne présente pas réellement un inceste, mais plutôt une relation incestueuse ou une ambiance incestueuse, c'est Mathilda de Mary Shelley. Et j'avais envie de vous en parler parce qu'ici, on est entre un père et sa fille, donc c'est quand même assez différent de l'inceste adelphique qui est très présent en littérature. C'est un court roman très très court, donc je vous encourage vivement à le lire. C'est un très très court roman qui a été publié après la mort de l'autrice. Alors on suppose que l'entourage n'aurait pas voulu qu'il paraisse de son vivant pour plusieurs raisons. Alors je vais passer rapidement sur cette œuvre hein, parce que la relation n'est pas consommée à quelque niveau que ce soit, n'est pas réellement consentie non plus, donc ça ne s'inscrit pas exactement dans l'axe de ce podcast, mais j'avais vraiment envie de vous en parler parce que c'est un écrit extrêmement particulier, parce que c'est pas un inceste adelphique, c'est un inceste entre père et fille, parce que l'écriture est très particulière également, parce que pour l'époque et la culture par contre, et la société de Mary Shelley, c'est vraiment très très transgressif, et que couplé à Frankenstein, ça montre en fait la virtuosité et toute la modernité et tout l'intérêt d'une telle autrice qui est bien trop souvent ignorée. Alors, autre époque et autre auteur, Thomas Mann, qui alors présente dans deux de ses récits, lui, la question incestueuse. Donc clairement, c'est aussi un sujet un petit peu de prédilection. J'ai surtout envie de vous parler d'un roman, L'Élu, qui est d'inspiration médiévale, et qui respecte donc certaines conventions de présentation de l'inceste à l'époque médiévale. C'est-à-dire que à l'époque médiévale, quand il y avait un inceste, c'était très souvent révélé par une figure religieuse et par une tablette ou un texte secret qui serait porteur de malheur. Et c'est exactement ce qu'on retrouve en fait dans L'Élu de Thomas Mann, où l'inceste était si double, c'est-à-dire que le protagoniste est lui-même issu d'un amour incestueux entre frères et sœurs, puis il finira par épouser sa propre mère. Alors autant vous dire hein, ici que Thomas Mann prend totalement plaisir à utiliser les perversions ou les contorsions de la généalogie pour nous présenter en fait une forme d'épopée mystérieuse et mystique. C'est un roman exigeant, acéré, sarcastique, très intéressant du point de vue de l'énonciation et de la narration qui m'a beaucoup surprise. J'ai vraiment adoré ce roman contre toute attente alors que j'étais un petit peu frileuse, je dois vous avouer, au début de ma lecture. C'est très très unique, je n'ai rien dû, lu, pardon, de semblables, et je vous encourage réellement à faire cette lecture tout en étant conscient que c'est une lecture exigeante, avec de nombreuses adresses au lecteur, avec de nombreux fils d'analyse, et effectivement avec une volonté claire et nette de Thomas Mann de s'inscrire dans une tradition médiévale, ce qui donne une langue un petit peu désuète par moment ou complexe. Et alors ce trope en fait de l'inceste était déjà présent en fait en 1921, c'est-à-dire 30 ans avant l'élu, dans une nouvelle très très courte aussi intitulée Sans réserver, où on avait encore cette fois deux jumeaux qui vivent une histoire d'amour adultère. Donc clairement c'est quelque chose qui intéresse beaucoup. Alors pour changer un petit peu, on va parler de la relation mère-fils, qui est présente dans deux nouvelles. Alors une nouvelle de Léon Blois, alors c'est une nouvelle. Pour moi, c'est plutôt même une histoire très courte parce que ça tient sur quelques pages, hein, deux, trois pages. C'est une histoire dans ces histoires désobligeantes, donc tout de suite le ton est donné, hein, qui s'intitule Jocaste sur le trottoir, au titre bien sûr évocateur parce que Jocaste, c'était dans la mythologie la mère d'Œdipe. Voilà. Donc cette nouvelle est disponible gratuitement en ligne et c'est pour ça que je vous la laisserai découvrir. Alors je dirais juste quelque chose, on s'éloigne un petit peu du consentement. Mais toutefois, ça reste assez léger dans l'écriture, donc ce n'est pas du tout traumatisant. Et alors il y a Maupassant également qui nous livre une très très courte nouvelle au titre similaire, parce que la nouvelle s'intitule Jocaste, dont voici un extrait. Et puis, il l'aimait aussi, lui. Il l'aimait avec horreur maintenant, mais aussi avec emportement. C'était sa fille, soit. Le hasard des fécondations, la loi brutale de la reproduction, un contact d'une seconde, avait fait sa fille de cet être qu'aucun lien légal n'attachait à lui, qu'il chérissait comme il avait chéri sa mère, et même plus, comme si deux passions se fussent accumulées en lui. Était-ce bien sa fille d'ailleurs? Et puis, qu'importe, qui donc le saurait? Et le souvenir ardent lui revenait des serments faits à la mourante. Il avait promis qu'il donnerait toute sa vie à cet enfant, qu'il commettrait un crime s'il le fallait pour son bonheur. Et il l'aimait, se plongeant dans la pensée de son forfait abominable et doux, déchiré de douleur et ravagé de désir. Qui donc le saurait? Puisque l'autre était mort, le père. Soit, se dit-il, ce secret infâme pourrait me ronger le cœur. Comme elle ne le saurait soupçonner, j'en porterai seul le poids. Il demanda sa main et l'épousa. Je ne sais pas s'il fut heureux, mais j'aurais fait comme lui, madame. Alors là, on est quand même également dans la provocation absolue parce que, alors effectivement, le consentement est absent, étant donné que la fille en question ne sait pas qui elle épouse. Ce dilemme intérieur, là, ce monologue intérieur conflictuel entre raison et passion est extrêmement intéressant parce qu'en plus, à la fin, on a la prise de position du narrateur qui est un petit peu la prise de position, il semblerait quand même, de l'auteur, j'aurais fait comme lui, madame. Et puis on a effectivement ce doute en fait, parce qu'on n'est pas sûr réellement que ce soit sa fille, étant donné que la mère en question était mariée et avait également des relations avec cet homme-ci. Donc le doute persiste et c'est ça aussi qui rend la question intéressante, c'est-à-dire que en vue du doute, alors que tous deux s'aiment, aurait-il été juste de sacrifier cette relation? Voilà, la question est ouverte et moi je trouve que ça permet également de revoir toute la subtilité et tout l'intérêt de Maupassant qui n'est pas cet auteur si simple et si scolaire qu'on aimerait le faire croire. Alors pour clore rapidement cet épisode du podcast, je vous présente un dernier livre qui ne correspond toutefois pas réellement à l'inceste comme il a été traité jusqu'à maintenant. C'est un roman qui s'intitule Joumana et qui a été écrit par Farjallah Haïk, un auteur libanais francophone. Alors je vais aller très très vite, parce que ce récit présente un amour incestueux qui est plus social et symbolique que réel, étant donné qu'il s'agit du récit d'un homme qui tombe amoureux de la nièce de sa femme. C'est un amour réciproque. Donc au niveau de la biologie, tout va bien, nous pouvons respirer, nous ne sommes pas réellement dans l'inceste. Toutefois, au niveau bah, effectivement de la construction de soi, des relations, de l'image de l'autre, effectivement, on est dans quelque chose de totalement incestueux. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant de pouvoir tomber sur une œuvre bah, libanaise, une œuvre contemporaine qui nous présente effectivement cette transgression-ci et qu'il fait avec, il me semble, beaucoup de brio. J'ai beaucoup aimé ce récit, j'ai trouvé que c'était très bien écrit et que les sentiments des personnages étaient très bien retranscrits. Alors j'espère vous avoir montré que l'inceste a fait couler beaucoup d'encre du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, mais peut-être de moins en moins, il faut se le dire, et on peut s'interroger sur le pourquoi de cette diminution de la prévalence de l'inceste dans les thèmes et dans les écrits littéraires. Alors ce podcast ne se voulait pas et n'aurait de fait pas pu être exhaustif tant les occurrences sont nombreuses et les occurrences sont multiples. Comme je vous l'ai dit, il y a l'inceste biologique, il y a l'inceste symbolique, différentes formes d'inceste, l'inceste consenti, non consenti, à moitié consenti. J'espère toutefois avoir traité, et c'est là aussi le plus important pour moi, le sujet avec décence, d'où mon choix de ne pas intégrer de témoignages de victimes et de ne pas m'aventurer sur de réels incestes, des écrits autobiographiques qui seraient des abus. La seule exception, c'était Anaïs Nin, mais encore une fois, il y a beaucoup de questions qui se posent sur la réelle, sur la véracité en fait de cet inceste, et puis il y a aussi le fait qu'Anaïs Nin était totalement consentante et désireuse en fait de cet inceste, de cette relation incestueuse. Voilà. J'ai beaucoup aimé rechercher, scripter et faire ce podcast. C'est un sujet que je trouve absolument passionnant, qui a été énormément recherché par différents spécialistes de la littérature, et je pense que c'est quelque chose que je continuerai moi-même d'investiguer, si je puis dire, parce que je trouve que ça ouvre des portes absolument fascinantes en termes d'analyse et que ça peut lier la sociologie, l'anthropologie, l'histoire, la psychanalyse ou la psychologie avec l'étude littéraire, ce qui est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement. J'espère que ce podcast vous aura intéressé, qu'il vous aura peut-être permis de découvrir certaines œuvres et qu'il vous donnera également envie de lire certains ouvrages mentionnés dans ce podcast. Je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux et n'hésitez pas à partager ce podcast qui me prend beaucoup de temps, que j'adore faire et que j'espère partager avec le plus grand nombre. Encore une fois, merci de votre écoute et puis je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de la...